Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama sur VOA Afrique, cette émission qui sera largement consacrée à l'Euro 2016. Et comme chaque semaine, vos commentaires sont attendus. Qui va remporter l'Euro 2016? Qui va donc l'emporter entre la France, l'Allemagne, le Portugal et toutes les autres nations qui participent à ce championnat européen? Vos commentaires, chers auditeurs, sur notre page Facebook. Et aussi, nous attendons vos appels ce soir. Ce sera sur le 001-202-619-3140. Nous avons en ligne Nicolas Pinault, notre envoyé spécial à l'Euro 2016. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Bagassi.
Voilà. Où est-ce que vous vous trouvez en ce moment?
Là, actuellement, j'étais en Suisse. Là, je suis en Suisse, bientôt près de Lyon en France, mais actuellement en Suisse à Genève.
Voilà, en Suisse, à Genève. Et nous avons aussi en ligne du continent, Jules Valentin Ngwe, notre consultant, qui nous fait chaque jour ce coup de sifflet que vous aimez tant. Bonsoir, Jules.
Bonsoir à tous.
Voilà, bonsoir à Libreville. Et on remonte en Europe, cette fois-ci à Paris, pour retrouver Christian Mpanzou. Bonsoir, Christian.
Bonsoir Bagassi, bonsoir à tous.
Voilà, vous restez messieurs avec nous. On va d'abord commencer rapidement par cette actualité, par ces actualités africaines. Première journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Le TP Mazembe s'est imposé dimanche à domicile. C'était à Lubumbashi, 3-1 face aux Ghanéens de Madeyama dans le groupe A de la phase des poules. On écoute cette réaction d'Hubert Velloud, le coach du Mazembe.
Et on avait deux joueurs qui ne jouaient pas à leur poste habituel. Il s'agit de Bopé, dont je viens de parler, et également Thomas Oluwengu, qui ne jouait pas à son poste habituel. Ils s'en sont très bien sortis les deux. Ce que je retiens ce soir, c'est surtout le jeu collectif très intéressant de l'équipe ce soir, qui nous a permis d'avoir de nombreuses occasions de but. Il y a encore sans doute des choses à voir dans la dernière passe, aussi dans l'efficacité encore, mais c'est un de nos meilleurs matchs au niveau collectif qu'on ait fait ce soir, depuis que je suis arrivé.
Voilà, c'était donc Hubert Velloud du TP Mazembe, toujours dans le groupe A. Victoire du Mouloudia Olympique Béjaïa, 1-0 face au Young African de Tanzanie. Dans le groupe B, le FUS de Rabat a battu 1-0 Ali de Tripoli. Et le Kaoukab Athletic Club de Marrakech a battu 2-1 l'étoile sportive du Sahel de la Tunisie en Ligue des Champions. Juste pour mentionner que l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire a trébuché 1-0 samedi, c'était à Abidjan, contre le Wydad de Casablanca à l'issue de la première journée des matchs de poule de la Ligue des Champions. Direction le Sénégal à présent, 32 ans après son dernier titre, l'US Gorée est le nouveau sur le toit, de nouveau sur le toit du championnat du Sénégal. Les insulaires ont corrigé Ngor lors de la 26e et dernière journée du championnat. Retour sur ce sacre de l'US Gorée avec notre correspondant à Dakar, Amdine Sy.
Ils ont surclassé l'Olympique d'Ngor sur le score de 3-0, une victoire synonyme de 4e sacre pour les insulaires, à la grande satisfaction du coach Alemal.
Il fallait marquer au moins pour être psychologiquement prêt dans la tête, parce qu'on n'était pas prêt, parce qu'il y avait aussi le trac, début de match, on avait le trac, personne ne voulait gâcher le match, personne ne voulait perdre le ballon, ce qui fait qu'on a eu des problèmes au début.
Avec ce titre, l'équipe de l'île Mémoire qui est revenue au sein de l'élite cette année après 2 ans passés au purgatoire, met fin à 32 ans de disette. Cela a fait dire au président de la Fédération sénégalaise de football et président de Gorémen, Ougissé Senghor, que ce titre est celui de l'humilité et de la patience.
On courait pour fuir un ogre qui s'appelle la descente. Mais à force de courir, on s'est retrouvé à la tête parce qu'on est des bons peureux. Je pense que ce qu'il faut saluer, c'est que quand on est patient, on finit par toujours récolter les fruits.
Que l'IS Gorée représentera le Sénégal l'année prochaine à la Ligue des Champions, tandis que Sinaor et Ngor évolueront en Ligue 2. Dakar, Amédine Sy, VOA Afrique.
Voilà, on revient à nos moutons pour parler de l'Euro 2016. Et nous avons toujours nos spécialistes qui sont en ligne, deux en Europe et Jules Valentin Gouet à Libreville. Nicolas, on commence avec vous. Dans le groupe A, il y avait ce match hier dimanche, la France et la Suisse où vous vous trouvez en ce moment. Donc les deux équipes se sont séparées 0-0. Comment est-ce que cette rencontre a été vécue là-bas en Suisse?
Oui, c'est un match qui a rangé les deux équipes, hein, surtout pour les Suisses. C'est une première qualification pour, on va dire, la deuxième partie d'un tournoi, justement, comme l'Euro. Et donc, il y a eu beaucoup la fête ici. Mais au-delà du résultat, c'est un match nul qui a rangé les équipes. Qualification des Français qui restent premiers, c'était leur souhait, évidemment. Et qualification des Suisses. Concernant le match en lui-même, on peut regretter quand même l'état de la pelouse. C'est un peu l'une des polémiques au-delà des hooligans, c'est l'une des polémiques de cet Euro, car l'état de la pelouse, vous savez, elle a été changée par un prestataire de l'UEFA et la pelouse à Lille et dans d'autres stades français est vraiment dans un état lamentable. Et sur le plan du jeu, Paul Pogba qui a brillé après les critiques et la polémique utile ou inutile, diront certains, du bras d'honneur, Paul Pogba, le joueur de la Juventus de Turin, peut-être en partance pour le Real de Madrid, Paul Pogba qui a vraiment éclairé de son talent ce match avec au moins deux barres transversales et celle de Dimitri Payet, ça fait trois pour les Français. Les Suisses auraient mérité un pénalty en toute fin de match pour un maillot tiré dans la surface de réparation sur un centre, mais globalement le 0-0 satisfait tout le monde. On va retenir quand même Bagassi, la première victoire lors d'une phase finale d'un grand tournoi international de l'Albanie qui a battu le même jour la Roumanie 1-0.
Voilà, 1-0 pour l'Albanie. Donc, Christian, on vient à vous à Paris. On s'attendait quand même à un signal fort de l'équipe de France pour dire que on est maintenant dans le jeu. Est-ce qu'avec ce 0-0 finalement face à la Suisse, les Bleus ne sèment pas le doute dans l'esprit des Français?
Je ne sais pas si on peut dire ça. C'est peut-être encore un peu tôt pour dire ça. En tout cas, le match d'hier soir, c'était surtout un match pour reposer certains titulaires. Payet n'était pas sur le terrain d'entrée. Matuidi n'était pas sur le terrain non plus d'entrée. Il y a eu en tout 5 changements dans le 11 de départ de Didier Deschamps. Donc très clairement, cette rencontre, c'était le moment idéal pour faire quelques tests et faire reposer certains cadres. Le week-end prochain, dimanche prochain, la France joue son 8e de finale. Et là, je pense qu'on verra le vrai 11 type que Didier Deschamps imagine depuis le début de la compétition. Il y a quelques petites infos qui bruissent. On parle d'un Blaise Matuidi qui pourrait être mis sur le banc. Moussa Sissoko a convaincu hier. Son impact au milieu du terrain a été très important, notamment lorsqu'il a fallu se porter vers l'avant et libérer justement Paul Pogba des tâches défensives, puisque c'est ce qui pose problème lorsque Pogba est sur le terrain. Sa facilité à se porter vers l'avant l'empêche naturellement d'être très impliqué en défense. Et quand il a derrière lui un joueur comme Moussa Sissoko qui s'occupe uniquement des tâches défensives, c'est beaucoup plus facile pour lui de se porter vers l'avant et d'aller apporter le danger. En défense, il ne devrait pas vraiment y avoir de changement. En attaque, on se pose toujours légèrement la question sur les côtés. Est-ce qu'il faut titulariser un jeune comme Kingsley Coman à la place de Griezmann? Griezmann qui lui aussi n'est pas encore totalement rentré dans la compétition. C'est des choses qu'on verra petit à petit au cours de la semaine.
Voilà, petit à petit au cours de la semaine. On passe maintenant au groupe B avec l'Angleterre qui n'a besoin que d'un match nul face à la Slovaquie. Tandis que la Russie, dernière du groupe, doit impérativement battre le pays de Galles. Quelles sont les chances pour l'Angleterre ce soir, Jules?
Oui, mais l'Angleterre a commencé le tournoi sur les chapeaux de roue sans être réellement, disons, récompensée. Et donc, elle rencontre dans un match décisif la Slovaquie, une équipe particulièrement difficile, qui elle aussi est montée en puissance. Donc, pour l'Angleterre, un nul suffit, comme vous dites, et c'est réellement prenable. Je crois que ces chances sont intactes pour passer ce tour, déjà qu'à 4 points, elle fait déjà partie des meilleurs troisièmes. Donc, je crois que les joueurs joueront sans pression et chercheront à tout faire pour être en tête du groupe.
Voilà, nous avons le match sous les yeux ici. Nous jouons la 12e minute et c'est toujours 0-0 entre l'Angleterre et la Slovaquie. On me signale que nous avons le premier auditeur qui est en ligne, d'Abidjan. Bonsoir, Abrico.
Bonsoir.
Alors, qui va remporter l'Euro 2016?
dans le haut 2016, je crois bien que la France sera remportée, malgré les conditions difficiles que cette équipe rencontre. Cette équipe reste une très grande équipe, parce qu'on représente plusieurs grands talents, sur Paul Pogba, Patrick Evra, Blaise Matuidi. Donc, je pense que cette équipe a plusieurs qualités de donner ce que son peuple attend. Vu que n'oublie pas, l'Euro se joue précisément en France. Donc, cette équipe a une très grande possibilité de prendre l'Euro s'il prend les matchs en devoir.
D'accord. Merci infiniment. Merci, Brico, de nous suivre depuis Abidjan. Alors, Nico, on vient à vous. La Russie qui est dernière donc de ce groupe, mais la Russie qui a beaucoup fait parler d'elle lors de cet euro, notamment en dehors du terrain.
Eh oui, le problème du hooliganisme, très peu de condamnations, cependant, Bagassi, on en a beaucoup parlé, parce que les Anglais ont accusé cette horde, comme ils l'ont décrit, de 300 supporters russes venus uniquement pour se battre. Deux, trois personnes seulement, dont une reconduite à la frontière, Christian me confirmera ça. Mais c'est vrai que le hooliganisme, c'est un peu l'autre point noir avec les pelouses de ce début d'euro. Alors, il faut quand même signaler que la Russie n'est pas le seul pays qui a été mis un petit peu sous pression par l'UEFA. Je crois qu'on
les Anglais, bien sûr.
Qui ont été menacés, justement, car leurs supporters ne se comporte pas bien, en tout cas des pseudo-supporters. Et actuellement, aujourd'hui, il y a eu un point de presse, notamment de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui s'est cependant dissatisfait concernant de la sécurité de l'euro. Mais c'est vrai que les images de Russie-Angleterre à Marseille le premier samedi ont laissé des traces chez beaucoup de supporters et chez beaucoup d'amateurs de ballon.
Oui. Alors Christian, est-ce que les choses sont un peu rentrées dans l'ordre comparé au premier jour?
Ben écoutez, je pense pas qu'on puisse dire ça. Je vais reprendre ce que disait Nicolas Pineau par rapport à Bernard Cazeneuve et sa conférence de presse, où effectivement il disait que l'euro se passe bien d'un point de vue sécuritaire. Je sais pas si on peut exactement dire ça. Il y a quelques jours, on a eu droit à un match entre la Croatie et la République tchèque, où les Croates menaient 2-0 et à cause, entre guillemets, à cause de leurs supporters qui ont lancé des fumigènes sur la pelouse à 2-0. Les joueurs croates ont été totalement déconcentrés. La rencontre a dû être arrêtée pendant plusieurs longues minutes. Et au final, les Tchèques sont revenus à 2-2. C'est des petites choses qui se passent comme ça. On a eu les Hongrois également dans les tribunes du stade Vélodrome qui ont lancé quelques fumigènes. Je ne sais pas si on peut dire que d'un point de vue sécuritaire, cet euro est totalement réussi. Alors certes, au-delà des débordements qu'il y a eu le premier samedi entre Anglais et Russes, il n'y a pas eu de tels débordements depuis. Mais il y a quelques petites imperfections qui font que on n'est pas totalement certain que d'un point de vue sécuritaire, et les autorités françaises et toutes les autres autorités, puisque je vais rappeler que l'UEFA a convoqué les polices de tous les pays qui sont impliqués dans cet euro. Je ne sais pas si toutes ces polices, si je puis dire, ont totalement réussi leur euro, elles.
Oui. Alors, on revient sur le terrain, cette fois-ci pour faire le point du groupe C. L'Allemagne est à égalité avec la Pologne, 4 points pour chacune des deux équipes. Et l'Irlande du Nord suit de près avec 3 points. Jules, est-ce qu'il faut craindre un peu pour le leadership allemand dans ce tournoi-là?
Non, je ne pense pas. L'Allemagne,
c'est une machine qui démarre tout doucement.
Certains cadres se sont retirés. Et donc, c'est une équipe un peu métissée qui est sur le terrain. Donc, c'est normal que l'Allemagne démarre un peu lentement. Mais je crois que c'est une équipe qui prendra sa vitesse de croisière au fur et à mesure. Vous savez, dans les grandes compétitions, ce sont les marathoniens généralement qui gagnent. Ils démarrent au diesel, mais ils finissent en vitesse.
Oui, ils finissent en vitesse. Nicolas, est-ce que l'Allemagne est toujours, après ces quelques matchs, l'équipe qui est la plus crainte?
Oui, bien sûr, du fait évidemment de son statut de champion du monde en titre.
Oui.
Les Allemands qui impressionnent toujours. Mais c'est vrai qu'il y a ce problème en attaque. Les Allemands et Joachim Löw en tête, le sélectionneur, ne l'ont toujours pas résolu. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est un groupe quand même à la portée des Allemands. On va avoir des confrontations directes qui vont commencer avec les huitièmes de finale. Peut-être que les Allemands vont monter justement en pression, et peut-être que le dernier et troisième match avec l'Irlande du Nord va peut-être être le dernier grand test où là les Allemands vont enfin se révéler. Mais c'est vrai que pour le moment on reste un peu en dedans, mais et peut-être les autres intervenants auront peut-être le même sentiment. Il n'y a pas vraiment d'équipe encore qui se détache, hein, qui impressionne. Même si évidemment l'Italie a battu la Belgique, l'Italie s'est qualifiée après ses deux premiers matchs, mais enfin en tout cas moi je reste sur ma faim sur cet Euro. J'ai pas vraiment d'équipe qui illumine le tournoi comme ça pouvait être le cas par exemple de l'Espagne il y a 4 ans, ou de l'Allemagne il y a 2 ans au Brésil.
Voilà, nous partons à Niamey au Niger où nous trouvons Abdoul Razak Idrissa. Bonsoir Abdoul.
Bonsoir monsieur, allez bien?
Oui, quelle est votre équipe favorite pour remporter ce tournoi, l'Euro 2016?
Vraiment, mon équipe favorite, c'est la Belgique, quoi, les Diables Rouges, quoi.
Allez-y, pourquoi vous dites ça?
Parce que je supporte le Chelsea et Eden Hazard est mon joueur préféré. Et je compte beaucoup sur lui.
D'accord. Ok, merci infiniment et merci de nous suivre à Niamey, au Niger.
Merci à vous aussi.
Voilà, merci bien. Alors, on retrouve Nicolas Pinault à Genève, en Suisse. Nicolas?
Oui, Bagassi, peut-être juste pour évoquer la situation peut-être du meilleur joueur du monde, en tout cas celui dont on attend beaucoup, c'est Cristiano Ronaldo et le Portugal. Début catastrophique, un début très lent, 2 matchs nuls. Alors, il n'y a pas terrible en la demeure, certainement les Portugais vont se qualifier, mais vraiment une équipe à la peine, un pauvre match nul, 1-1 contre l'Islande, qui découvrait évidemment un grand tournoi international, puis un 0-0 contre la Hongrie. Vraiment, quelque chose ne tourne pas rond avec cette équipe portugaise.
La chose ne se passe pas bien.
Oui, on parle toujours de cette génération dorée qui doit gagner quelque chose. Ça fait 10 ans qu'on parle de cette génération. Et il semble en tout cas qu'encore une fois, on risque d'être déçu du côté de Lisbonne.
Alors le Portugal en ce moment est 3e de son groupe avec seulement 2 points, de même que l'Islande est derrière la Hongrie qui a 4 points. Le Portugal est la plus grosse déception du tournoi. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Jules?
Oui, pour le moment, on peut le dire. Et on crée même un bide qui ressemblerait à celui de 2002 où on avait vu le Portugal, donné favori pourtant, et s'écrouler dans une poule où il y avait également les États-Unis qui étaient passés. Et donc, une équipe où il y avait Figo et de Rui Costa et tous les grands cadres. Donc, on se demande ce que le Portugal, lors des grandes compétitions, mais là, vraiment, ça commence à devenir inquiétant. Surtout quand Ronaldo a un manque de confiance totalement, comme ça a été le cas dernièrement contre l'Autriche.
Voilà. Christian, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas bien avec Cristiano Ronaldo, qu'on a vu quand même remporter la Ligue des Champions?
Ce qui ne marche pas avec Cristiano Ronaldo, c'est déjà d'une qu'il est totalement épuisé, puisque comme vous venez de le dire, ouais, il a gagné la Ligue des Champions, il a fait une longue saison, plus de 50 matchs. Et puis, je vais reprendre Jules qui parlait du Portugal de 2002, avec effectivement beaucoup de très grandes stars. Bah, aujourd'hui, autour de Cristiano Ronaldo, au Portugal, il n'y a pas vraiment beaucoup de très grands joueurs. Il y a quelques cadres, hein. On a Pepe en défense, il y a João Moutinho au milieu. Lorsqu'on a cité ces deux noms-là, très rapidement, on se retrouve un peu à sec du côté portugais. Donc, très rapidement, et comme c'est le cas depuis maintenant bientôt 3-4 ans, ben, on demande à Cristiano Ronaldo de tout faire, d'être à la conclusion et au départ des actions. Et c'est pas possible. C'est pas possible, surtout quand on a disputé une saison vraiment pleine de sa part, une saison qui a aussi été rythmée par des blessures. Il n'a pas vraiment eu le temps de se préparer. Après son sacre en Ligue des Champions, il a pris quelques jours de vacances bien mérités, je pense, et ensuite a enchaîné avec le début de cet Euro. De dire que le Portugal, qui ne se qualifierait pas, serait une catastrophe, oui, effectivement, surtout dans ce groupe-là qui est relativement faible et vraiment à sa portée. Mais je pense vraiment pas qu'il faille mettre toute la faute sur Cristiano Ronaldo. Il a sa part de responsabilité, évidemment, puisque rater un pénalty comme il l'a raté samedi soir, c'est presque une faute professionnelle. Mais je pense pas qu'il faille mettre toute la faute sur son dos.
Voilà, et au contraire du Portugal, hein, Nicolas, on a des pays comme l'Espagne et puis aussi l'Italie. Des pays comme l'Espagne et l'Italie. Jules, on me signale que Nicolas Pinault n'est plus en ligne. Hein. L'Italie qui a vraiment assuré, qui a convaincu le public.
Oui, mais bien sûr, l'Italie qui a toujours les mêmes armes que dans le passé, et l'Italie n'est jamais aussi bonne que quand son collectif marche bien. Parce que les Italiens, c'est une mécanique collective où tout le monde a son petit rôle à jouer et tout le monde est complémentaire. Et ça a pris, la mayonnaise a pris. Dès le premier match, on sent que les adversaires de l'Italie auront affaire à forte partie, pourtant avec des joueurs qui ne sont pas très connus. Bon, donc, je crois que c'est une équipe qui jouera un grand rôle dans la compétition.
Alors, Christian?
Allô?
Oui, on parlait de l'Italie hein, et la grande performance qu'elle a, elle a pu démontrer jusqu'à présent.
Bah, l'Italie, c'est synonyme d'efficacité.
Ouais.
On ne s'embarrasse pas forcément avec du beau jeu, à faire beaucoup de passes. C'est vraiment un bloc défensif très solide, comme on l'a vu contre la Belgique. Vraiment, il y a des images qui étaient criantes. Un beau bloc, deux lignes de quatre, les milieux et les défenseurs qui bougent tous en même temps. Vraiment, tactiquement, c'est très fort. C'est vraiment très développé, très travaillé. Offensivement, ça joue en contre. Il y a quelques joueurs très intéressants, un Giacchierini, un Candreva. C'est des joueurs qui, par à coup, en créant la zizanie dans la défense, peuvent faire mal, peuvent marquer des buts. Vraiment, cette équipe d'Italie, que beaucoup de journalistes italiens, notamment, jugeaient comme l'équipe d'Italie la plus faible de l'histoire, écoutez, moi je demande à voir dans la suite de la compétition, surtout que à partir des huitièmes de finale, ils auront a priori un parcours assez ouvert. Je pense qu'on peut les attendre jusqu'au quart, voire même les demi. Ça va être très intéressant à regarder.
Voilà, et c'est toujours un 0-0 entre l'Angleterre et la Slovaquie. On joue la 24e minute. On prend la direction de Conakry en Guinée. Bonsoir Daouda. Daouda Diakité.
Oui, je vous écoute. Bonsoir, comment
oui,
allez-vous?
Oui, ça va très bien, merci. On voudrait écouter votre pronostic concernant l'Euro 2016.
Oui, oui, vraiment. Moi, quand même, je vois l'Espagne, c'est un tenant de titre comme encore. Parce que quand tu vois leur parcours, comme les années précédentes, comme l'Euro 2012, les gens disaient que, bon, comme ils ne marquent pas beaucoup de buts, cette année encore, on voit un certain Iniesta, actuellement le meilleur joueur de cette compétition. Vraiment, vraiment, moi, je vois quand même l'Espagne comme nouveau sacre de cette Euro encore.
Voilà, vous êtes à l'écoute de Sporama, c'est sur VOA Afrique, au micro Bagassi Koura. Un mot sur la Copa América qui se déroule aussi en ce moment. On connaît le tableau des demi-finales ce mardi. Ce sera États-Unis-Argentine et mercredi Colombie-Chili. Et parlons de basketball à présent. LeBron James a tenu parole 2 ans après son retour à Cleveland. King James a offert le premier titre NBA de l'histoire aux Cavaliers qui ont terrassé le champion sortant Golden State. C'était hier soir dans leur salle à Oakland. On retrouve Eugène Pewa Pelema, notre spécialiste basketball. Bonsoir Eugène.
Bonsoir Bakassi.
Voilà, vous avez prédit cette victoire hein, il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est quand même un improbable retournement de situation.
Ben écoutez, je pense que sur la compétition, Golden State avait très bien commencé la série, puisqu'il venait 2-0. Puis il y a eu le troisième match qui s'est joué à Cleveland, où ils ont été massacrés puisqu'ils ont plus de 30 points. Et bizarrement, au quatrième match, LeBron n'a vraiment pas bien joué. C'était un LeBron qui, bon, il avait quand même marqué 25 points, peut-être plus de 10 rebonds et 9 assists. Mais c'était un LeBron James sans âme. Et quand il partait au game 5, le comportement du joueur Green, qui avait l'habitude de faire un peu, de donner des coups en bas de la ceinture pendant la série avec Oklahoma City, a refait la même chose avec LeBron James. C'est sûr, il y a eu un petit accrochage entre les deux.
Et la NBA a suspendu.
Et ce qui a permis à Cleveland d'aller là-bas en mission et gagner ce match. Et à partir de ce moment-là, les choses devenaient totalement différentes parce qu'ils revenaient à Cleveland. Et en revenant à Cleveland, Cleveland a largement dominé le Game 6 et le dernier match qui se jouait à Oakland, donc dans la salle de Golden State, c'était 50-50 avec un avantage un peu à Cleveland puisqu'on avait Bogut qui était blessé, on avait Iguodala qui n'était pas 100% et on avait surtout LeBron James qui ne voulait pas perdre cette finale puisqu'il en a quand même joué 6 d'affilée. Et il en avait déjà gagné 2 et il voulait gagner celle-là pour que ça fasse 3. Et comme les critiques contre lui étaient nombreuses, il a voulu faire taire les critiques et je pense qu'il a fait un très très grand match, et sans oublier bien sûr Kyrie Irving et tous ses autres coéquipiers, je pense, qui ont été très concentrés pour gagner ce match-là hier soir et offrir le premier titre de basketball à la ville de Cleveland et le premier titre et le deuxième titre professionnel après 52 ans, puisque l'équipe de football de Cleveland Browns avait gagné un titre de NFL et depuis lors, aucune équipe professionnelle à Cleveland n'avait pu gagner un titre.
Alors, Eugène, vous restez avec nous. Hein. Je crois que nous avons toujours Christian à Paris.
Oui.
Vous avez suivi ce match aussi, tard dans la soirée?
Oui, bien sûr, en pleine nuit. Il était 2-3 heures du matin. C'était un moment exceptionnel. On a vraiment eu l'impression d'être des witness, comme il aime souvent le dire, LeBron James. On a vraiment eu l'impression d'être des témoins de l'histoire. Ce match 7, c'était vraiment quelque chose d'historique. C'était la première fois qu'une équipe gagnait un match 7 à l'extérieur, un match 7 des finales NBA à l'extérieur depuis 1978. C'était vraiment extraordinaire. Ce shoot de Kyrie Irving à 53 secondes de la fin.
Ouais.
LeBron James qui va shooter ses lancers francs malgré un poignet en douleur. C'était vraiment extraordinaire.
Voilà, merci messieurs. Merci Christian Mpanzu à Paris. Passez une bonne soirée.
Merci Bagassi, bonne soirée à tous.
Voilà, merci à Jules Valentin Ngwe à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Bagassi, et merci pour tout, à bientôt.
À bientôt, et nous avions un peu plus tôt notre envoyé spécial en Europe, Nicolas Pinault. Et maintenant, Eugène Pewa Pelema qui est venu décortiquer cette victoire de Cleveland à la finale hier de basketball. Bonsoir Eugène. Voilà, merci de nous avoir suivis et rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Sporama.